L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strate, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des boucles, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la potarde.
La littérature m'a sauvé la vie, et j'espère qu'elle continuera à le faire. Ces mots sont ceux d'Isabelle de Courtivon, autrice et artiste féministe. Ce sont aussi ceux du rappeur et poète Abdelmalik. Ce sont les mots de l'académicien Jean-Marie Rouard, ainsi que ceux de la romancière Amélie Nothon. Cela interroge, de quelle manière la littérature, le processus d'écriture, la lecture, sauvent-elles des vies ? Est-ce une vision trop idéaliste, sentimentaliste, romancée de la réalité ? Y a-t-il une forme de salut dans le cinquième art ?
T'aimes les gâteaux, toi ?
Ah oui, mais uniquement les gros.
Les gros gâteaux. Le G.
Gaston goûte un gâteau garni de grains de groseille. Gaston se gave trop. Gaston sera très gras et gros.
Bonjour à tous, vous écoutez L'Épluche Livre sur Divergence FM et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Margot Turca. Bonjour Margot.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'art plastique.
Oui.
Ça. Vous avez aussi écrit une BD.
Oui.
Une BD qui s'intitule Mon petit AVC. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ce qui a enclenché l'écriture de cette BD ? Qu'est-ce qui vous est arrivé personnellement et qui a joué fortement sur votre vie aujourd'hui ?
Alors, à l'âge de 33 ans, j'ai eu un AVC, alors que j'avais strictement aucun facteur de risque, donc ça m'est tombé dessus comme ça, de manière totalement inopinée. Et j'ai été hospitalisée pendant quasiment 6 mois. Et donc, je ne pouvais plus parler correctement, lire, écrire. J'ai dû réapprendre à marcher et plein de choses du quotidien. Et je voulais laisser une trace pour mon fils, parce que quand j'ai eu mon AVC, il avait 14 mois et j'ai disparu comme ça subitement de sa vie. Et je voulais lui expliquer pourquoi j'étais plus à la maison. Et donc, j'ai commencé à dessiner mon histoire parce que j'étais pas capable de l'écrire, avec l'idée que je lui donnerais ses dessins pour qu'il comprenne plus tard, quand il sera en âge de lire, ce qui m'était arrivé. Et en parallèle, j'avais décidé de le poster sur Instagram pour raconter ce que c'est d'avoir un AVC dans la trentaine à un cercle proche de personnes, donc ma famille, mes amis, mes collègues, et qui comprennent quel était mon vécu à l'heure actuelle. Et progressivement, ce compte Instagram m'a pris de l'ampleur parce que j'étais la première personne à raconter l'AVC sous cet angle-là, l'AVC en plus des jeunes. Et d'un truc qui devait rester plutôt confidentiel, ça a pris de l'ampleur jusqu'à ce que, en octobre 2020, je sois repérée par les éditions Larousse, donc quasiment 2 ans après mon AVC, et qui me demandent d'en faire un livre avec eux. Et un livre, donc une BD qui est sortie en septembre 2021.
Donc, on va reparler de votre expérience d'autrice BD, même si c'est pas un terme que vous revendiquez pour vous. On va d'abord présenter peut-être votre parcours. Donc, vous êtes artiste, vous êtes professeur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cet aspect de votre vie, votre parcours professionnel ?
Alors, artiste, vraiment entre guillemets, parce que moi, c'était pas du tout ma spécialité dans le cadre de mon diplôme. Moi, ce que j'aime, c'est la théorie. Donc, voilà. Donc, moi, j'étais professeur d'art plastique. J'enseignais pendant 10 ans et puis tout s'est arrêté le jour où j'ai eu mon AVC. Et donc artiste, non, mais à côté de ça, je faisais de la BD sur mon temps libre. Tout début de mes premières années prof, j'avais un blog BD. Et j'avais arrêté au bout d'un moment parce que le métier de prof est quand même très prenant et donc je ne pouvais pas me consacrer à tout. Et donc, quand j'étais hospitalisée, bon, c'était un moyen de m'occuper. Et je me suis rendu compte aussi que c'était un moyen de m'auto-rééduquer. C'est-à-dire que je faisais de l'orthophonie tous les jours, je faisais de l'ergothérapie. Et en parallèle de ça, quand j'étais pas en rééducation, dans ma chambre, du coup, je dessinais et je réapprenais à écrire. Et ça m'a servi d'auto-rééducation. Et après, c'est devenu même un outil qu'on a utilisé avec mes soignants pour que je progresse. Mmh. Voilà.
Quel a été votre premier achat à la sortie donc, du centre de rééducation quand vous êtes revenu un petit peu chez vous pour une vie un peu plus classique?
Alors, le premier truc que j'ai acheté en sortant, c'est le dictionnaire. Et la blague, c'est que c'est Larousse. J'ai acheté le dictionnaire Larousse parce qu'en fait, je me servais toujours du dictionnaire en centre de rééducation. Et bien qu'à la maison, on ait, je ne sais pas, l'équivalent de 4000 ou 5000 livres, on n'avait pas de dictionnaire. Donc, j'allais m'acheter un dictionnaire pour pouvoir continuer à avoir cet outil-là. Et c'est vrai qu'au quotidien, je travaille tout le temps avec un dictionnaire des synonymes. J'utilise les pages conjugaison à l'intérieur des dictionnaires et j'ai une planche de conjugaison, celle qu'on a pour les enfants là, du petit Nicolas.
Elles sont super.
Voilà, et j'ai ça au quotidien et je m'en sers tout le temps puisque j'ai un gros problème d'écriture sur les constructions grammaticales, syntaxiques et en conjugaison. Donc c'est des outils que je suis obligée d'utiliser tout le temps.
Et heureusement qu'ils sont là, enfin, comme quoi les dictionnaires sont très utiles encore aujourd'hui, n'en déplaise aux médisants. Est-ce que vous rejoignez la petite intro un peu grandiloquente que j'ai écrite sur cette phrase qui revient régulièrement et qui revient là, qui m'est revenue sous les yeux récemment, le pouvoir de la littérature qui sauve, entre guillemets, des vies. Est-ce que vous rejoignez cette idée ou pas du tout?
Alors moi, je ne suis pas une grande lectrice. En fait, dans ma vie, il y avait des moments où j'ai beaucoup lu, des moments où je me suis arrêtée de lire. Et je ne peux pas me revendiquer comme quelqu'un où la littérature m'aurait sauvée. Mais je peux comprendre que ce soit le cas. Et moi, c'est plutôt le dessin qui a un effet cathartique et qui m'a permis de libérer certaines choses et de pouvoir le coucher sur le papier. Des fois, je me rends compte que quand je relis certains dessins que j'ai faits, j'avais oublié. Et c'est comme si ça m'avait permis de les sortir de mon esprit et que je les avais évacués. Donc oui, il y a bien quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Ouais.
D'accord. Vous, c'est la forme donc, d'art dessiné. Est-ce que vous en parlez beaucoup dans votre BD? Le fait de chercher ces mots, de vouloir mettre en mots, là aussi, c'est un défi quotidien, mais c'est aussi quelque chose comme une perche à laquelle vous vous accrochez.
Mais chercher ces mots au quotidien, c'est super compliqué. Mmh. En vrai, quand on veut dire quelque chose et qu'on n'a pas le mot qui arrive et qu'on sait très bien qu'il n'arrivera pas. Alors moi, maintenant, j'ai des stratégies compensatoires, mais nombre de fois, alors moi, ce que j'ai, c'est ce qu'on appelle une aphasie. Donc, c'est une perte totale ou partielle du langage. Donc, moi j'ai récupéré. Il y a des gens qui parlent par exemple plus du tout après un AVC et on a souvent ce qu'on appelle la perte du mot et chercher ces mots continuellement c'est assez terrible parce qu'on sait que l'idée ne sera jamais 100% celle qu'on avait voulu, celle qu'on avait imaginée, elle sera jamais retranscrite à 100% par les mots et c'est très perturbant.
Et alors, question toute bête, hein, vous allez me dire, mais c'est dans le langage, mais est-ce que si vous passez par l'écrit c'est plus aisé?
Non.
Non.
Ça dépend vraiment des personnes. Il y a autant d'aphasie qu'il y a de personnes, en vrai.
Donc, d'accord. Voilà. D'accord. OK. Et par le dessin?
Alors moi, le dessin, ça m'a permis de le faire, de comprendre certaines choses parce que j'étais capable de les dessiner. Mais je sais qu'il y a certaines personnes pour lesquelles ça ne fonctionne pas du tout. Donc, ouais, y a autant vraiment d'aphasie qu'il y a de personnes. Et d'ailleurs, moi, je trouve que ça, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a... En fait, la neuro, c'est hyper mystérieux. Mais moi, je trouve que c'est un peu la maladie des désespérés parce qu'il n'y a jamais de solution, quoi. Quand on a un problème au cerveau, il n'y a pas souvent de réponse, quoi.
D'accord. Oui, c'est tellement au cas par cas que, en fait... voilà, ouais. Vous suivez encore une rééducation, je suppose?
Oui.
Ouais. Ça sera pour toujours?
Jusqu'à temps qu'ils me veulent bien de moi.
Bon. On espère alors que ce sera
voilà.
durera le plus longtemps possible. Pouvez-vous décrire votre quotidien professionnel depuis ce qui vous est arrivé, depuis cet AVC? Comment avez-vous renoué avec votre carrière?
Alors, j'ai été en congé longue maladie pendant 3 ans.
Et ça aussi, c'est intéressant parce que un voilà. congé maladie, c'est pas rien. Voilà. C'est souvent vécu. Enfin, moi, je sais que quand je me mets en maladie 3 jours, je le vis comme une punition, par exemple. Enfin, alors, comment vous avez vécu déjà cette partie-là?
Moi, la première partie, j'étais hospitalisée. Donc, j'ai fait 6 mois d'hospitalisation totale où je sortais pas. Après, j'ai fait 5 mois d'hôpital 2 jours. Donc là, j'allais à l'hôpital, mais le soir, j'étais à la maison. Donc déjà, j'ai eu 11 mois de ce congé longue maladie qui ont été occupés. Et après les 2 années suivantes, il y a eu quand même toutes les périodes de confinement. Donc bon, mais en fait, j'étais un peu comme tout le monde, puisque personne ne travaillait. Mais par contre, c'est vrai que j'ai eu... au début, j'étais persuadée que je reprendrais le travail. J'ai eu mon AVC en novembre 2018 et je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'au printemps 2019, je reviendrais dans ma classe. En printemps 2019, j'étais toujours hospitalisée, donc ce n'était pas du tout possible. Et donc, en fait, de dessiner, ça m'a permis d'occuper mon temps et de gérer ma rééducation que je faisais en libéral. Et d'aménager mon temps autour du dessin, plutôt que de rester à rien faire sur mon canapé, à déprimer. Au moins, ça m'avait donné un but. Et à l'issue de ces 3 ans, enfin un peu avant, parce que voilà, en étant fonctionnaire, je connais les mécanismes et je sais que ça va être très long de mettre en place les dossiers pour pouvoir retravailler. J'ai demandé à pouvoir retravailler, ce qui est un vrai challenge parce qu'il y a 10% des aphasiques qui retravaillent, seulement 10%, d'accord. et à des postes majoritairement moindres de leur capacité antérieure.
D'accord.
Et donc, moi, j'ai demandé à travailler au CNED, donc le Centre National de l'Éducation à Distance, et je suis rentrée en poste adapté de courte durée, c'est 1 an renouvelable de 3 fois. Et ensuite, j'ai demandé à rentrer en poste adapté de longue durée. Donc là, c'est 4 ans renouvelables X fois. Et mon travail, en fait, consiste à corriger des copies d'art plastique de mon domicile. Donc je les reçois par Internet et je les corrige. Et je fais un service comme ça de prof d'art plastique, mais de chez moi.
D'accord. Et ça enfin, c'est une question que je pose souvent à mes invités. Ça vous fait vivre ? Concrètement, ou c'est lié avec la RQTH
Alors, j'ai une RQTH, oui, mais non, je gagne le même salaire qu'avant, je fais un taux horaire comme un enseignant, voilà. Donc, oui, ça me fait vivre, je n'ai pas perdu d'ancienneté, d'avancement, j'ai le même salaire que si j'étais en poste, en présentiel, dans un établissement scolaire. Et à côté, donc, je fais de la BD sur mon temps libre. Et en général, la BD, quand je travaille, c'est uniquement pendant mes vacances scolaires. Donc, en fait, c'est 2 semaines, toutes les 6 semaines. Parce que ma priorité, c'est quand même mon travail YouCNET, parce que derrière, il y a quand même des élèves qui attendent que je corrige leurs travaux. Et moi, je suis incapable de mal faire ce travail-là. C'est-à-dire que je ne peux pas bâcler un truc, sachant qu'il y a un enfant derrière qui attend ma correction, mon avis. Donc, voilà, pour moi, c'est hyper important. Donc, ma priorité, c'est le CNED. De toute façon, c'est ça qui me fait vivre. Et à côté, c'est la BD. Donc, j'ai un emploi du temps qui est vraiment cadré autour de ça pour gérer mon temps. Et évidemment, à côté de ça, il y a la rééducation de tous les jours.
Quel rapport vous avez avec vos élèves aujourd'hui? Vous les connaissez?
Je ne les connais pas du tout. C'est des anonymes. Ils viennent d'accord. de partout dans le monde.
Okay.
Parce qu'en fait, ça peut être des enfants qui suivent un enseignement au CNED, mais qui, par exemple, habitent au Sri Lanka.
OK.
Voilà. Donc, je les connais pas. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Ce sont juste des prénoms et des noms sur des feuilles. De temps en temps, il y a des prénoms qui reviennent, mais je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Et voilà, je ne sais rien d'eux. D'accord. Et ils ne savent rien de moi.
D'accord. On va entamer notre pause musicale. Est-ce que vous pouvez nous annoncer le titre que vous avez choisi, s'il vous plaît, Margot?
Alors, j'ai choisi The Strokes et la chanson Some Days.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce titre musical, Margot?
Alors, c'est très particulier, mais ce n'est pas fait exprès. Alors, j'ai choisi The Strokes. Alors, j'adore les Strokes. Mais depuis leur premier album, donc c'est 2001, donc c'est bien longtemps avant que j'ai mon AVC. Et pour ceux qui ne le savent pas, a stroke en anglais, c'est un AVC. Et voilà, et donc c'est totalement le fruit du hasard. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'un jour, je suis partie au CHU et j'avais un t-shirt de The Strokes. Et mon médecin m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette blague pourrie, Margot ?» Et je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Il me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce t-shirt ?» Et je lui ai dit « Mais tu connais pas ?» Et il dit « Mais non. » Et alors que mon médecin a un an de plus que moi. Et donc, il connaissait pas du tout. Et je lui ai dit « Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ? Il manque tout un pan culturel de ton existence quand même là, de ne pas connaître
vous,
ça.
Vous avez ouvert un petit peu son champ des possibles.
Bah oui, lui il est contrebassiste dans un groupe de jazz manouche, donc je sais qu'on n'a pas les mêmes goûts musicaux, mais j'étais vraiment très très étonnée qu'il puisse pas connaître ce groupe-là, alors que pour moi c'est juste un pilier de mon existence. Alors peut-être que j'ai excessivement mauvais goût pour lui, mais voilà. <c'est... rire>
Non mais merci en tout cas, merci pour ce choix. Allez, on écoute. Vous écoutez L'Épluche Livre, je suis en compagnie de Margot Turca, autrice de mon petit AVC. Margot, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs l'expérience que vous avez eue avec la maison d'édition Larousse ? Comment ça se passe ? Comment s'est créée cette BD ?
Alors, il faut savoir que cette BD, déjà, elle a été conçue pendant une année de confinement. Donc, les gens, en général, voient leur éditeur, voient le staff avec qui ils bossent. Et bien, moi, je ne les ai jamais vus. Je les ai rencontrés le jour où ils m'ont donné le livre en main propre, le jour où il est sorti en librairie. Voilà, donc c'est quand même une relation assez particulière. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, avant de me coucher, je regardais mes mails et je vois un mail d'une dame. Alors, ça me fait rire que je dise c'est une dame, parce qu'en vrai, mon éditrice, on a une semaine d'écart. C'est ma fausse jumelle. Voilà. Mais elle fait très dame comparée à moi, je trouve. Elle a une élégance parisienne que je n'ai pas. Et donc, je vois donc le mail de cette dame qui m'écrit sur Instagram. Elle a juste un nom. Zéro photo, zéro publication et quelques followers. Et son image de profil, c'est un tableau de Renoir.
D'accord.
Donc je me dis, bon, mais c'est un fake. Et donc elle me dit, bonjour, je suis éditrice chez Larousse. J'ai découvert votre travail, j'adore, je veux qu'on travaille ensemble. Est-ce que vous pouvez me contacter et donc je vois ce mail et je le montre à mon conjoint. Et il me dit, mais tu ne te poses pas la question, si c'est Larousse, tu réponds. Et donc j'ai répondu de suite. Et le lendemain matin, elle m'a contactée. Et en 12 heures, c'était bon, c'était lancé.
Et comment elle avait eu vos planches? Comment elle avait eu votre
parce
travail dans les mains?
Elle était tombée sur mon compte Instagram.
D'accord.
Et elle l'avait lu.
D'accord.
Et elle avait adoré. Et voilà, donc ça s'est lancé en l'espace de 12 heures de temps, c'était fait. Le livre, il a mis 9 mois. Mmh. À être conçu.
Un beau bébé.
Voilà, c'est mon deuxième bébé. Bon. Et tout s'est fait donc en période de confinement, donc avec des envois de colis, parce que moi, je travaille sur papier.
D'accord.
Je ne travaille pas du tout sur tablette numérique. En fait, j'ai gardé ce que j'utilisais à l'hôpital. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, j'avais une ramette de feuilles A4 que j'avais coupée en deux. Et je dessinais sur ces ramettes-là et j'épinglais mes dessins avec une pince à dessin.
Okay.
Et donc, je travaillais uniquement avec un crayon à papier, un feutre noir fin, un marqueur noir. Et j'ai gardé ça. Et donc, pour le premier livre, la blague, c'est que la somme des colis que je lui ai envoyés, ça fait le poids de naissance de mon fils.
Comme quoi.
Ouais, c'est super drôle comme hasard. Et donc, je lui avais envoyé, je crois qu'il y avait 2500 dessins. Et donc, elle a lu mes dessins, elle les a triés. Après, est arrivée dans la course la deuxième personne qui a fabriqué le livre, qui s'appelle Anne, et qui, en fait, est ma graphiste. Mm-hmm. Et pareil, Anne, je l'ai découvert totalement par hasard un jour. Elle est venue m'écouter en conférence. Anne n'est pas à Paris, elle n'est pas chez Larousse, elle est à Anglette. Donc, on est vraiment dispatchés partout en France. Et donc, c'est Anne qui a conçu la maquette du livre et qui a tracé toutes les cases.
D'accord.
Et c'est Anne qui nettoie les fichiers et qui les met au propre. Parce que moi, autant dans une vie jadis, j'ai su utiliser Illustrator et Photoshop. Autant aujourd'hui, j'en suis totalement incapable. Donc, j'avais besoin de l'aide de Anne. Et en fait, le livre existe parce qu'elle est là, quoi. Et ça, je pense que c'est important de le dire, parce que sans elle, c'est mon travail, il n'aurait pas le même impact.
Et la collaboration avec Anne, c'est vous qui l'avez initiée?
Pas du
c'est
tout,
vous qui l'avez choisie?
Elle travaille avec Larousse.
Ah, d'accord.
C'est une graphiste qui est rattachée à Larousse.
Okay,
voilà. Et on s'est rencontrés comme ça. Donc, c'est un staff, chez Larousse, c'est un staff de filles. Et elles sont toutes hyper cool. Et ça a vraiment fonctionné, ça a vraiment matché. Et donc le livre s'est créé comme ça. Et en 9 mois, voilà, en 9 mois de temps, il a été conçu. Et aujourd'hui, je travaille toujours avec eux, puisqu'on est en train de faire le alors c'est pas un tome 2. C'est pas une suite, mm-hmm. C'est ressemble, mais c'est l'entrée dans le monde du handicap. Est-ce que ça engage, en fait, quand on a 30 ans et qu'on est passé d'une vie de valide à aujourd'hui une vie de handicap? Et ça questionne ça, voilà.
D'accord, très bien. Et apparaître quand?
Théoriquement, septembre 2025.
Super.
Voilà.
Vous viendrez. On fera un petit Bordeaux-Montpellier. vous allez intervenir là prochainement en collaboration justement avec la librairie, avec les Pluches Libres, dans une clinique castelnaudienne, une clinique de rééducation. Est-ce que ce sont des interventions que vous faites régulièrement? Est-ce que c'est vraiment une partie aussi de votre vie post-maladie?
Alors ça, je ne l'aurais jamais imaginé, mais oui. En fait, j'ai commencé à être sollicitée pour faire ce type d'intervention. Et au bout d'un moment, je me suis posé la question de la légitimité. Parce que j'intervenais auprès de soignants, auprès de patients. Et moi, je suis quelqu'un qui souffre terriblement du syndrome de l'imposteur. Et donc, pour légitimer ça, j'ai passé un diplôme qui est délivré par la faculté de médecine de Bordeaux. Et donc, j'ai fait un an à la fac de médecine pour devenir patient expert et patient formateur au parcours en soins chroniques. Donc, pour pouvoir, comme ça, dispenser mon savoir, mais avoir une assise universitaire derrière. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir dispenser le savoir expérientiel du patient à des professionnels de santé qui, eux, ont le savoir théorique, mais expérimentent pas la maladie dans leur chair. Et voilà. Et donc, maintenant, c'est vrai que je le fais de manière plus ou moins régulière auprès de divers organismes. Donc, je peux le faire dans des... alors, je l'ai fait pour des orthophonistes, pour des aides-soignants, pour des infirmiers... Là où ça m'a fait plus rire, c'est le jour où on m'a contacté pour former les assistants de régulation du SAMU.
D'accord.
Parce qu'en fait, moi, si je dois mon état actuel, c'est parce que je n'ai pas été crue par le SAMU. Alors, j'avais une sensation de boucle bouclée de l'avoir fait.
Okay.
Et j'étais hyper contente de l'avoir fait et de me dire que, en fait, mon savoir allait peut-être permettre à d'autres personnes de ne pas vivre ce que j'avais vécu. Et donc moi, j'aime bien faire ça. C'est mon petit côté prof aussi, parce que comme je ne peux plus enseigner en présentiel, ça me plaît de le faire, parce que ce n'est pas la même chose d'enseigner à 30 collégiens et faire cours d'art plastique en atelier où il y a du bruit partout, que d'être face à un public d'adultes qui est concentré, qui vient pour écouter. Voilà, donc j'aime bien le faire. Et ce diplôme-là m'a aussi permis... je travaille aussi à l'INSPE d'art plastique de Bordeaux pour former les futurs profs d'art plastique à la question de l'adaptation du cours d'art plastique pour les enfants à besoins particuliers.
Super.
Parce qu'avant mon AVC, j'étais très intéressée par la question des troubles 10 et j'avais la sensation que je faisais vachement bien mon boulot. Sensation qui en fait était totalement fausse, puisque en devenant moi-même handicapée, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui n'allaient pas en réalité.
Okay.
Et voilà, donc c'est pour pouvoir en fait faire de cette histoire de vie quelque chose, ce qui n'est pas une obligation, hein, ça je le précise. Il n'y a pas un besoin de faire quelque chose de sa maladie, mais moi en fait je me trouvais un peu trop jeune pour ne rien en faire, et comme je suis prof, je crois que ça m'a porté quoi.
Est-ce que vous avez lu d'autres témoignages de personnes ayant eu un AVC un peu précoce, enfin hors âge attendu, entre guillemets ?
Alors, j'en lis pas beaucoup.
Est-ce qu'il en existe ?
Il en existe déjà. Oui, bien sûr qu'il en existe. Il y a beaucoup de gens qui écrivent sur cette question-là. Donc, par exemple, il y a Élise Maty qui a écrit un livre là-dessus. Il y a Philippe Ménard-Fourcade. Il y a une BD qui a été faite par un ancien journaliste de France Culture, Bruno Cadenne, qui a eu un AVC. Et d'accord. Ça s'appelle Silence Radio. Voilà, je le lis. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal à lire ce genre de choses parce que ça me fait profondément mal que d'autres personnes aient vécu ça.
D'accord.
Tout comme écouter une émission de radio, un podcast, un truc comme ça sur quelqu'un qui a vécu la même chose que moi, ça me fait mal au cœur pour
d'accord.
eux.
D'accord.
Par contre, là, il y en a une qui va sortir chez Casterman, je crois, et que j'ai vue en avant-première parce que l'auteur m'avait contacté, et ça va être une super BD. Et ça, je suis hyper contente qu'elle sorte. Ça s'appelle Merveilleux. Mm-hmm. C'est de l'artiste, artiste, Cookie Calcaire, parce que vraiment, c'est un dessinateur hors et c'est sur l'AVC de son papa.
D'accord.
Et qui est totalement aphasique, qui ne parle pas plus du tout. Et c'est le changement dans la vie de son père, et c'est exceptionnel, et si bien qu'il m'avait demandé de relire plusieurs passages, et en fait, la dernière relecture avant que ça parte en impression, j'ai été obligée de lui envoyer un vocal en lui disant « Désolée, je vais être grossière ». Je lui ai dit « Putain, tu fais chier, Charlie ». En fait, moi, je ne peux pas lire un truc comme ça. Je suis obligée de m'arrêter toutes les 3 minutes parce que c'est tellement beau que j'arrête pas de pleurer. Quoi.
Oh là là.
et voilà, et ça va être un magnifique livre et je le conseille d'avance, sa lecture. Ouais.
On le note, ça sera notre conseil lecture pour cette fin d'émission. Donc, mon petit AVC de Margot Turca, qui est quand même à lire. Enfin, moi, je trouve, je l'avais lu à parution à l'époque, mais je suis très étonnée avec les années. Parfois, les boucles se bouclent, donc je suis ravie de vous rencontrer, de vous accueillir aujourd'hui. Et donc, le titre Merveilleux, c'est ça, apparaître ouais. chez Casterman.
aussi nos deux conseils lecture. Je remercie les auditrices, les auditeurs de l'émission. Je remercie Margot pour
Merci
votre
beaucoup.
Présence. Et je vous dis à bientôt.
L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain des beurre.